FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué ben, Gosport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, les jeunes, en font totalement de façon simple.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, c'est l'heure, c'est 19h et quelques minutes de passé, et c'est l'heure du Canu Info en ce vendredi 17 novembre. De quoi va-t-on parler ?
Eh ben, on va commencer par vous parler des professionnels de Forum Réfugiés qui sont maltraités, probablement comme les personnes qui les accueillent.
Ensuite, on vous parlera de l'interdiction de manifester pour les forains de Grand Clément.
Après, au niveau national, la route de Vauquier, des petites arrestations, des gardes à vue pour des personnes qui n'étaient peut-être pas d'accord.
Et puis, bah, on vous parlera de basket, non, on déconne, on vous parlera de Tony Parker et de la vie de Châtelain qui souhaite s'offrir sur votre dos.
Voilà, et en parlant de dos, et ben le patronat aussi s'offre un gros cadeau sur votre dos, sur le dos des chômeurs, enfin... pour les chômeurs.
Après, on passera sur la fameuse rubrique nucléaire. Pour quelques poignées d'uranium de plus. Une nouvelle mine en Mongolie.
Et puis, nucléaire toujours, finalement. On vous parlera de la lettre de Landra aux générations futures. Je cite, « À toi qui n'es pas encore né, Landra creuse déjà ta tombe. »
Ouais. Et après, on passera à la rubrique internationale où on vous parlera de la prolongation de l'utilisation du glyphosate.
Il y aura une rubrique animaux.
Absolument.
Absolument.
Mais no spoiler.
J'avais spoilé, donc je viens de nous dire.
On ne dit rien du tout. Et puis donc après la rubrique animaux, il y a le traditionnel agenda.
Et puis évidemment le ACAB, et pour ça n'hésitez plus, prenez votre téléphone mobile ou fixe si vous en avez un, et appelez-nous au 04 79, non,
zut. 04 78 39 18 15.
Ouais.
Oui, pas très visible.
Bonne écoute sur Radio Canu.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Allez-y, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
Et vous ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous les mangez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes. On chante, on résiste.
protégeons les salariés qui protègent les réfugiés. Alors, sans la reprendre en totalité, on voulait vous faire parvenir cette lettre ouverte de plusieurs professionnels du CADA et du CPH de Forum Réfugiés de Vaux-en-Velin. Voilà, donc, ce qu'ils racontent. Dans un contexte de situation de crise survenue cet été sur les sites donc, du CADA et du CPH Forum Réfugiés de Vaux-en-Velin, nous, salariés et anciens salariés, de ces sites, adressons cette lettre ouverte pour que soit connue de tous la situation de dégradation des conditions de travail et d'accueil au sein de nos structures, ainsi que les réponses, à notre sens désastreuses, que notre direction y apporte. Pour rappel, dans le Rhône, l'association Forum Réfugiés est le premier opérateur de l'asile. Il gère la structure de premier accueil, un certain nombre de centres d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés, ainsi que le programme d'intégration des bénéficiaires de la protection internationale, répondant pour cela à des marchés publics et bénéficiant de financements publics. Ils reviennent du coup précisément sur la situation du CPH de Vaux, de Lyon 8 et du CADA, donc centre d'accueil de demandeurs d'asile, de Vaux aussi. Ils mettent à notre connaissance donc tout un tas de difficultés qu'ils ont depuis plusieurs mois. Entre autres, ils dénoncent un management maltraitant et une culpabilisation d'équipe. À savoir que depuis juin 2023, donc après plusieurs mois de souffrance des équipes de ces structures, 11 salariés avaient adressé un courrier à la direction comme un appel à l'aide, car ils se plaignaient du coup de problèmes managériaux et des agissements maltraitants de la chef de service. Là-dessus, des entretiens individuels avaient été organisés, qui étaient très mal vécus en fait par les professionnels, puisqu'ils avaient demandé des entretiens collectifs. Et à la fin de ces entretiens individuels, il y avait même un résumé simplifié de ce qu'ils avaient pu exprimer, sur laquelle ils devaient du coup poser leur signature. Suite à ça, en juin, il n'y a pas eu forcément de changement. En tout cas, ça a provoqué une vague d'arrêt de travail et de démission, ce qui ont amené du coup des équipes et des structures en sous-effectif avec des surcharges de travail impossibles et du coup pas plus d'effet face aux alertes par la direction. Ils témoignent aussi pour un de leurs collègues du CPH qui, avec cette vague de démission et d'arrêt de travail, s'est retrouvé seul pour porter 70 personnes hébergées pendant plusieurs semaines, notamment au moment de la mise en place de ce nouveau dispositif d'insertion des bénéficiaires de la protection internationale, le dispositif AGIR, qui est en 2 ans une réorganisation avec un guichet unique pour une prise en charge globale, comme ils disent, et un accès au logement et au emploi en 24 mois maximum. Bon, alors on sait bien ce que ça amène, hein, souvent les guichets uniques. En tout cas, ils continuent à dire que cette situation pour ce professionnel à porter du coup sans bien comprendre les tenants et les aboutissants et l'avenir pour les personnes, un certain nombre d'arrêts de prise en charge et d'accompagnement pour des personnes hébergées des fois depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Il a pu, ce professionnel, encore une fois, exprimer à de nombreuses reprises auprès de collègues d'autres structures ou auprès de la direction sa détresse, auquel il n'a jamais eu de réponse. Et le drame, 16 août, cette personne ne s'est pas présentée à son travail. Et le 21, la chef de service de cette structure-là a annoncé le décès de ce professionnel. Donc les équipes ont été totalement dévastées. Il y a eu une gestion de crise de leur point de vue qui était totalement délétère, avec la venue des RH, etc., sur la structure, en prenant un décalage par rapport à l'énormité de la situation et le drame qui se passait quand même, et que les équipes encaissaient en n'ayant pas du tout de soutien de la direction. Ils prétextaient du coup que par rapport à la situation, la médecine du travail n'avait pas justifié une intervention psychologique pour les équipes. Plus tard, ils ont appris que la médecine du travail n'avait pas été contactée. Bref, en tout cas, il y a eu l'expression de la colère et du désœuvrement d'un certain nombre de salariés qui, par la suite, ont été convoqués pour des entretiens disciplinaires. Sur les quatre qui s'étaient exprimés, deux avaient été mis à pied avec une suspension de salaire. Par la suite, là, on en est à six professionnels qui sont mis à pied avec suspension de salaire immédiate. Et donc, la situation ne s'est pas arrangée. Malgré une enquête de l'inspection du travail, malgré une alerte danger grave et imminent émise par les représentants du personnel, la difficulté, en tout cas, a continué. Et encore une fois, ces professionnels, ce qu'ils expriment, c'est quand même leur inquiétude pour ce qui est de ce qu'ils font, qui sont là, c'est-à-dire leur profession et du coup l'accompagnement et l'engagement qu'ils ont auprès des personnes quotidiennes. Donc ce qu'ils dénoncent, c'est le manque de considération et la méconnaissance par la direction de l'association du travail et des conditions de travail des équipes de terrain, l'absence de prise en compte et de prévention effective des risques psychosociaux des salariés au sein de l'association Forum Réfugiés, la négation des alertes des salariés et des équipes en difficulté, la politique d'intimidation et de répression de la parole des salariés de Forum Réfugiés par la direction de l'association. Ces atteintes à la liberté d'expression des salariés risquent de se multiplier par l'adoption d'un nouveau règlement intérieur plus restrictif. Il dénonce aussi l'impossibilité de dialogue et de remise en question de la direction de l'association. Il dénonce la défense par la direction de Forum Réfugiés de cadres maltraitants et harcelants, d'atteinte à l'obligation de sécurité des salariés par l'association, niant, voire aggravant elle-même les conditions d'insécurité des salariés du terrain. Le traitement des salariés de terrain, nouveaux comme anciens, comme étant des éléments éjectables sans valeur à épuiser et à remplacer. Le manque de moyens alloués par les pouvoirs publics à l'exercice des professions de l'asile et la dégradation des conditions d'accueil des bénéficiaires. Des charges de travail, du coup, en contente augmentation. Et une aggravation de la situation de plus en plus par des politiques de gestion et une marchandisation du flux des hébergés et par les conditions délétères de la mise en œuvre du nouveau programme Agir dans le Rhône, ainsi que l'accélération des procédures administratives et la pression exercée par la préfecture pour fluidifier le dispositif d'accueil national. Bon, ça renvoie de toute façon aussi à l'ambiance en ce moment de la présence de personnes étrangères en France. En tout cas, ces problématiques concernent parfois d'autres structures aussi similaires à Forum Réfugiés ayant les mêmes missions. Elles sont sûrement en partie liées au manque d'effectifs et de moyens attribués aux structures d'hébergement et d'accompagnement des personnes migrantes. Donc, ce collectif de salariés souhaite plus largement interroger le montant des fonds alloués par le ministère de l'Intérieur à ce type de dispositif et demande sa revalorisation. Leur travail, donc notre travail, ils disent, auprès du public en demande d'asile et migrants, est indispensable et relève de la dignité humaine. Nous souhaitons qu'ils puissent être reconnus comme tels, que davantage de moyens et d'effectifs soient dédiés à l'accompagnement du public migrant et que les professionnels de secteur puissent évoluer dans un cadre sain, à l'écoute des besoins et des difficultés des salariés et des hébergés. Donc c'est un collectif de salariés qui compte 11 personnes là, qui s'expriment et on mettra peut-être en lien du coup sur le blog des Canu Info, mais en tout cas, ils invitent à un rassemblement le mardi 21 novembre à 14h devant la préfecture du Rhône. Donc c'est possible de venir les soutenir.
Oui, et ensuite une petite brève du collectif Grand Clément. On en a parlé plusieurs fois, on avait même eu des invités au Canu Info du vendredi, qui était un collectif qui s'est monté suite à la suppression du marché à Villeurbanne. Enfin, la suppression, ils l'ont déplacé, du coup, il y a des forains qui se sont retrouvés sans travail, etc. Et du coup, qui ont monté un collectif pour militer contre ça. Et en fait, ils viennent de se prendre un arrêté préfectoral pour leur interdire de manifester devant la mairie de Villeurbanne. Bon, c'est pas hyper nouveau parce qu'ils l'ont reçu en octobre, mais voilà, quand même. Donc c'est long, hein, un arrêté préfectoral, il y a 250 trucs avec des articles et tout ça, mais quand même il y a un endroit où c'est marqué que quand même c'est que quand même ils considèrent que les effectifs des forces de l'ordre ne sauraient durablement être distraits depuis maintenant 2 ans des autres missions qui leur incombent. de type prévention de la menace terroriste, toujours très prégnante, et du fait des nombres de services d'ordre à assurer pour ces rassemblements. Donc en fait, ils n'ont pas que ça à faire, de surveiller le collectif Grand Clément, de militer, parce qu'il y a d'autres choses plus graves. Et du coup, voilà, le truc il est super long, mais en tout cas, une des raisons, c'est la menace terroriste, etc. Et donc, c'est une bonne raison d'interdire carrément des manifestations, quoi.
Parce que forcément, du coup, cette prise de parole.
Voilà, du coup, Du coup, voilà, peut-être qu'on en saura plus dans les prochains temps. On ira pêcher les informations de où est-ce qu'ils en sont, mais voilà, les nouvelles, c'était ça. Elles n'étaient pas très réjouissantes.
Canu Info.
Gendarmerie nationale, arrêtez un peu les conneries là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et... Ah ok, je pensais qu'il y avait le petit jingle Vauquier.
Ah, je me suis tourné. Écoutons-le.
Ah oui. Ah.
Ce qui rapporte plus de points au Scrabble qu'à la région.
Vauquier.
L'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française. L'assistanat est aujourd'hui un des vrais cancers de la société française.
Merci beaucoup Laurent Vauquier de nous avoir rejoint, mais évidemment tout de suite. Comment vous vous sentez ce soir?
Je pense qu'on a une région qui est extraordinaire. Elle a un potentiel fabuleux. Je pense qu'on a du potentiel, on a de l'énergie, on a des ressources. Ce que je veux, c'est que notre région soit la première région de France. C'est que ce soit un modèle de ce qu'on peut réussir en France et que tout simplement chez nous, oui, je l'assume, on puisse se dire, voilà le modèle d'une France qui a retrouvé ses repères.
À la ferme.
La ferme?
Quelle ferme?
À la ferme, ta gueule, toi, du con, espèce de crétin. Qu'est-ce que tu veux, nous prendre la tête, là, pauvre con?
Oui, voilà, j'y tenais à ce jingle, puisque on va vous parler de la fameuse RN 88, qui a été nommée la route de Vauquier. Et je vais vous parler plus particulièrement du chantier de déviation pour contourner les communes de Pertuis et de Saint-Austien, voilà, si vous connaissez. Donc, projet de déviation qui, selon Vauquier, permettra de sécuriser les déplacements et de désenclaver le département. Chrono en main, la route fera gagner, allez, au moins 3 minutes aux voitures qui l'empruntent. Ce gain de temps coûtera la bagatelle de 226 millions d'euros, financé à 90% par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est actuellement le plus gros chantier routier de France. Malgré un avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature, son autorisation a été accordée en 2020 par un arrêté préfectoral. Pratique, près de 60 km de haies essentielles à la biodiversité et 190 hectares vont être croqués par la future route, dont 70 de forêt, 25 de zones humides et 105 de terres agricoles. L'autorité environnementale a rendu cet été un avis sévère qui pointe que l'intérêt public majeur du projet élaboré en 1997 est insuffisamment étayé et que l'importance écologique des terres artificialisées a été sous-estimée et que si des mesures de compensation sont bien prévues, leur suivi serait extrêmement lacunaire. Donc voilà, un projet fortement utile a priori. En tout cas, pour lutter contre ce projet inutile, un collectif, la lutte des SUC, s'est monté en 2020 et fait régulièrement des actions pour bloquer le chantier. Et d'ailleurs, ces actions se font souvent avec le soutien de leurs brebis. Et donc, cette semaine, ce mardi 14 novembre, une quarantaine de personnes ont bloqué le passage de machines sur le chantier de cette déviation. Objectif, empêcher la poursuite des fouilles archéologiques nécessaires à la réalisation des travaux. Ces travaux de fouilles sont obligatoires sur de tels chantiers, c'est ce qu'on appelle de la fouille archéologique préventive. Avant de tout recouvrir, en gros, avant de tout recouvrir de béton, on essaye de récupérer tant bien que mal les vestiges de notre passé. Et d'ailleurs, si les archéos trouvent un site d'exception, ça peut remettre en question complètement le projet. Donc, espérons qu'ils trouvent un site d'exception. En tout cas, dans cette région, les recherches ne peuvent avoir lieu qu'entre septembre et novembre. Pourquoi ? Parce que donc les recherches de prospection archéologique. Alors pourquoi uniquement entre septembre et novembre ? Parce que dès que les températures baissent, les travaux doivent cesser pour protéger les espèces hivernantes. Or, sans ces fouilles, le chantier ne peut pas continuer. Donc, si les archéologues ne terminent pas dans les temps, les travaux vont forcément être reportés à l'année prochaine. Donc ça donne du sursis pour la lutte, etc. Et donc voilà, donc ce mardi, il y a eu cette action de blocage. Et donc parmi les 40 personnes présentes, 7 membres du collectif de la lutte des sucs se sont mis par terre avec des barbelés pour bloquer. Alors l'objectif est plutôt réussi, puisque les archéologues ont jeté la pioche par terre, car ils ne pouvaient pas travailler dans ces conditions, à savoir, ils ne pouvaient pas travailler entourés d'une trentaine de gendarmes. Effectivement, personne ne peut travailler dans de telles conditions. Malheureusement, pour les 7 personnes, elles ont fini en garde à vue, pour s'être mises par terre. Alors après, 4 ont été libérées dans la foulée, donc dans la soirée, et 3 autres le lendemain. Sur cette action, il y a quand même une grosse inquiétude qui pointe le bout de son nez pour la suite, car la préfecture peut demander une dérogation afin que les travaux continuent sans poursuite des fouilles. C'est un peu leur carte 49-3 à eux, quoi. Donc après, il y a quand même l'autorité environnementale qui a rendu un avis assez sévère sur le projet. Du coup, on espère que ça contribue à mettre de gros bâtons dans les roues de la demande de dérogation si elle est faite. Donc voilà. Donc ça permet de faire aussi un petit rappel de la lutte contre ce projet de déviation. Et donc, du coup, qui dit route dit bagnole. Et donc, pour conclure sur ce sujet, on va s'écouter tout de suite le titre « Oui, oui et la voiture jaune » de Ludwig von 88.
Vous venez de mourir pour la 3e fois. Perte d'adhérence aggravée par des pneus trop étroits.
Not dead!
Qu'est-ce qu'on fait quand on est à la retraite qu'est-ce qu'on fait quand on est à la retraite à 38 ans alors
ça, tu t'es trompé de monde.
Je vous assure. Tony Parker, un basketteur de renom, bien sûr, après une merveilleuse carrière en NBA, a pris sa retraite, donc, en 2019, à 38 ans. Et donc, sûrement que maintenant, la joie de la retraite à 38 ans, c'est que tu es en forme. Tu as plein d'argent en plus si tu as travaillé à la NBA. Et tu as plein de temps. Et donc, il n'a de cesse de s'investir. Il s'investit dans la SVEL, qu'il a repris d'une main de maître. Du coup, il s'investit aussi auprès de l'OL. Il s'investit beaucoup dans le Vercors pour essayer de sauver cette région sinistrée, soi-disant, en tout cas, qui ne rapporte pas assez d'argent avec ses 50 remontées mécaniques. Gros projet, du coup, immobilier. Aux alentours de Villard-de-Lans, du coup, avec une envie d'utiliser 21 300 mètres carrés du parc naturel régional du Vercors et du coup à quelques kilomètres de la réserve naturelle des Hauts-Plateaux pour construire tout un énorme complexe.
Un immense parking avec des immeubles.
Hôtelier. Et aussi, vraiment, il nous aide beaucoup, beaucoup, parce qu'il a lancé récemment un appel aux investisseurs privés pour l'aider dans la restauration de sa propriété. C'est une bonne idée quand même. Donc, il explique que ce château représente bien plus qu'un investissement immobilier. Attention, c'est une partie de mon histoire que je souhaite partager. Associer ma passion pour le vin et celle du sport, tout en offrant la chance de vivre des moments privilégiés et une façon de remercier mes fans et de leur ouvrir les portes d'un univers qui me tient à cœur. Tels étaient les mots de Tony Parker pour annoncer donc sa campagne de financement participatif près d'un an après son achat du château Noël Saint-Laurent à Morières-les-Avignon dans le Vaucluse. Les fans étaient du coup au rendez-vous puisque la plateforme Brix, en charge de la campagne en question, donc, a récolté plus d'un million d'euros en près de 45 minutes. Ce sont exactement 3420 investisseurs privés qui ont répondu à l'appel de l'ancien basketteur français. Le montant minimum de l'investissement débutait à 10 euros afin de permettre au plus grand nombre de participer à écrire l'histoire d'un patrimoine d'exception.
Ça veut dire de permettre aux pauvres de donner de l'argent à un ultra-riche.
Ça rend dégueulasse.
Non, mais Laurent, t'es trop terre-à-terre, en fait. Là, on est vraiment sur un soutien du patrimoine. En tout cas, les fonds récoltés vont non seulement servir à rénover le château, et ça, c'est chouette, mais aussi à offrir de nouveaux équipements et outils aux 40 hectares de vignes qui devraient se convertir en agriculture biologique. Et ça, c'est chouette aussi. Assister à un tel enthousiasme est incroyable. Cela démontre la force de l'investissement participatif et la passion que nous avons pour notre patrimoine français. Je suis honoré, dit du coup Tony Parker, de partager cette aventure avec autant d'investisseurs enthousiastes. Pour la petite cerise sur le gâteau, parce que vraiment il se met auprès de tous ces gens-là là, qui lui payent sa maison, quoi. Il organise un tirage au sort parmi les 2400 et quelques investisseurs pour en choisir 250 qui seront vraiment super privilégiés parce qu'ils vont visiter le château en mai prochain avec Tony. Voilà, merci à lui. C'était vraiment ce qui importait comme investissement et comme budget participatif.
Ouais, et en parlant de filer de la thune, plutôt que de filer de la thune à Tony Parker, qu'on n'a vraiment pas besoin, et ça fout vraiment les boules, d'entendre qu'il a récolté un million en 45 minutes, franchement, je trouve ça gerbos. Du coup, si vous devez filer votre thune, filez-la plutôt, par exemple, à des associations qui en ont besoin. Alors, je fais un peu de promo. Il y a une association chère à mon cœur qui s'appelle Sortir du Nucléaire qui est bien en manque d'argent. Il faut savoir que c'est une association qui fonctionne que sur les dons, hein, puisqu'effectivement, on ne va pas compter sur les subventions de l'État pour ce type d'association pour fonctionner. Donc voilà, donc si vous avez de la thune à filer, filez plutôt à ce genre d'association.
Sinon, tu peux peut-être faire un petit cumulé avec Tony.
Ouais, je sais pas.
Il fait du vin bio, toi ouais, t'es contre le nucléaire, il y a peut-être un truc à creuser.
Je pense que. Non, décidément, il n'y a rien à creuser.
Il n'y aura pas de partenariat entre le réseau et Tony Parker. Voilà. Bon, alors, c'est vrai que des fois, on n'est pas à la retraite à 38 ans en étant multimillionnaire et en raquant la thune des gens qu'on. Enfin, bref. Voilà, il y a aussi tout un tas de gens en France qui sont au chômage. Et ce qui est sympa quand on est au chômage, c'est que tous les 6 mois, tous les ans, il y a des nouvelles blagues qui viennent. Mais en fait, ce n'est pas des blagues, c'est des vrais trucs qui vous expliquent que vous êtes précaire et qu'on va vous précariser encore plus parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez éventuellement pouvoir vivre dignement. Du coup, là, la semaine dernière, c'était les négociations entre les syndicats patronaux et les syndicats de salariés donc pour la gestion de l'assurance chômage. Mais avec cette idée, il faut quand même toujours se le rappeler qu'il y a, la loi, elle est faite de telle façon maintenant qu'il y a la lettre de cadrage du gouvernement qui, en gros, donne les grandes lignes. Bon. Et donc, après, les syndicats se retrouvent pour négocier sur des petits bouts de machin qui traînent. Quoi. Voilà. Et que si jamais le gouvernement trouve que ça ne correspond pas à sa lettre de cadrage, ce qui a été négocié, il décide tout seul. Voilà. Donc, voilà. Le contexte est déjà bien donné, vous pouvez discuter, mais en vrai, si vous ne faites pas trop les trucs qu'on a envie que vous fassiez, ça ne marche pas. Bref, inévitablement, dans ce contexte-là, il y a eu ces négociations, dont on peut dire qu'elles sont maintenant valables pour 4 ans au lieu de 2 ans. Alors on pourrait se dire, c'est vrai que, en vrai, quand on n'a déjà pas de thunes, pouvoir voir un petit peu plus loin, c'est sympa. La difficulté, c'est que là, les conditions sont tellement toujours de pire en pire que là, c'est acté pour 4 ans que t'es dans la merde. Du coup, c'est pas forcément génial. Et alors, accrochez-vous bien à vos sièges, devinez quoi, le grand gagnant de ces négociations sont les chômeurs et les chômeuses. Non, pas du tout, c'est évidemment le grand patronat. Enfin, le patronat tout court, d'ailleurs, pas que le grand. Qui s'est offert une réduction de cotisation pour un petit montant global d'1,5 milliard d'euros. Et ça va être pris dans la poche des futures chômeuses et chômeurs. Voilà, donc il faut donc croire que les 30 millions d'actifs en France sont minoritaires face aux 700 000 chefs d'entreprise. Donc en gros, le grand truc de ces négociations, c'est vraiment complètement pété, c'est dire avant, il y avait des indemnités journalières et du coup, effectivement, le mois de février, on touchait un petit peu moins de thunes, mais peut-être les mois en 31 jours, on touchait un peu plus de thunes. Et là, ils sont pas trop cons, ils ont sorti leur calculette et ils ont dit, mais attendez, si on faisait la moyenne du business. Et ils ont donc décrété qu'au lieu que ce soit une indemnité journalière, parce que quand on n'a pas de thunes, en vrai, on mange quand même tous les jours, enfin on essaye, et du coup, c'est pas mal que ce soit quand même un petit peu adapté. Et donc là, il a été décidé que maintenant, il y aurait 30 jours par mois d'indemnisés tous les mois. Et ça, qui est 31, 28, 29, tous les jours possibles. Donc on se dit, peut-être c'est pas mal. Et évidemment, le grand patron, il ne sait pas faire grand-chose, mais sortir sa calculette pour nous racler de la thune, ça y arrive bien. Et en gros, ça fait entre 5 et 6 jours de chômage en moins versés aux chômeurs et aux chômeuses par an, multiplié évidemment par le nombre de chômeurs. On vous laisse faire le calcul. Ça fait un paquet de thunes économisées et vraiment c'est des mesures de rapia, enfin vraiment d'aller gratter comme ça, d'aller gratter de la thune aux pauvres, c'est vraiment dégueu. Par ailleurs, il y aura donc 440 millions d'économies qui seront faites sur l'indemnisation des chômeurs et 65 millions sur les allocataires qui retournent ponctuellement à l'étranger pour travailler et qui du coup reviennent, et donc là, ils vont encore gratter de la thune. Alors on nous fait croire que tout va mieux, parce que pour la première ouverture des droits au chômage, il faudra 5 mois sur 2 ans de bosser au lieu de 6 actuellement. On rappellera toutefois qu'en 2020, c'était pas non plus l'après-guerre, donc en 2020, c'était juste 4 mois qu'il fallait. Du coup, merci pour le cadeau, mais si on touche à rien, c'était encore bien mieux. Voilà, du coup il y a quelques gens qui sont un tout petit peu moins pénalisés, donc les cadres de 55 ans et plus. Et voilà, dans tout ça, il y a aussi les intermittents du spectacle qui sont inscrits de fait à Popol. Et en vrai, on peut se rappeler que le système de la culture, c'est que si on veut que ce soit accessible à tous, il faut que ce soit pas cher, voire gratuit. Et qu'en vrai, la culture, c'est pas de la magie qui tombe du ciel. Il y a des gens qui bossent pour la produire. Et que du coup, l'idée quand même à la base de la base, c'était dire que l'État va financer une partie de la culture pour que ce soit accessible à toutes et tous en France. Donc, pour les 120 000 intermittents du spectacle, il y avait un accord accord qui avait été conclu par les syndicats du secteur qui avaient discuté entre eux et qui l'ont ensuite proposé donc aux grands syndicats à la suite, et ils ont, et ces accords ont été jetés à la poubelle. Voilà, donc ça c'est la moitié des revenus des intermittents en fait qui bougera pas, donc qui n'augmentera pas. On rappelle, il y a une espèce d'inflation. Alors Bruno Le Maire, toutes les semaines, il nous dit que c'est fini. Nous, ce qu'on voit bien, c'est quand on va acheter à bouffer, c'est de plus en plus la merde. Voilà, et évidemment, dans tout ça s'ajoutent des lois qui passent avec la France Travail, vous savez, le slogan pétainiste remasterisé à la Macron. En fait, ça va coûter grave de thunes de tout mettre en place. Alors on rappelle, quand ils ont changé la NPE par Pôle emploi, c'était 500 000 balles. Ça avait coûté juste pour quelqu'un dessine le putain de logo. Et qu'ensuite, il faut changer tous les logos des enseignes et tout le tremblement. Donc ça, personne n'a chiffré, etc. En tout cas, c'est des milliards d'euros. Et en gros, ça va être ponctionné dans l'excédent du coup des cotisations chômage. Et en fait, ça va être payé par les chômeurs et les chômeuses. Donc en fait, on baisse leur truc pour qu'ils puissent payer la transformation en France Travail, qui va encore plus niquer les chômeurs et les chômeuses. On a presque envie de dire bravo, tellement c'est dégueulasse et plein de cynisme. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe maintenant en France.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Oui, alors aujourd'hui vous parlez du minerai d'uranium et plus exactement de la possible nouvelle mine en Mongolie. Et oui, l'indépendance énergétique dont se vante la France avec le nucléaire repose sur l'exploitation crade des ressources d'autres pays, un peu comme une odeur nauséabonde de colonialisme. Mi-octobre 2023, Orano annonce avoir signé un accord avec la Mongolie pour exploiter un gisement d'uranium. Il faut dire qu'après avoir dû quitter le Niger, l'industriel du combustible nucléaire est privé d'un de ses précieux fournisseurs, et que la volonté affichée par le gouvernement de relancer le nucléaire en France exige de facto de nouvelles ressources de ce minerai depuis longtemps tari sur le sol français. L'annonce de cet accord, signé très officiellement en présence de Macron, a été largement reprise dans les médias. Mais qu'en est-il réellement du gisement de Zouf... Alors, désolé pour le nom de Zouf-Ovo. De Zouf-Ovo. Bon, voilà. Sans uranium, n'y a-t-il pas de production d'électricité ? Sans uranium, il n'y a pas de production d'électricité possible par les centrales nucléaires. La fameuse indépendance énergétique permise par la filière atomique ne tient qu'à des accords commerciaux et des importations, puisque les mines françaises sont taries depuis plus de 20 ans. Canada, Australie, mais aussi Niger, Kazakhstan ou Ouzbékistan, les relations de la France avec ces pays ne sont pour certaines pas des plus stables. Un coup d'état au Niger au début de l'été, un des principaux fournisseurs d'uranium naturel de toute l'Union européenne, a d'ailleurs obligé Orano à y suspendre ses activités minières. La coupure de ce robinet d'uranium a vite fait monter la pression dans la filière nucléaire. Hasard du calendrier ou anticipation de l'évolution de la situation géopolitique, fin juin 2023, Macron s'est rendu en Mongolie pour y promouvoir un partenariat axé sur l'énergie. C'est que le pays a beau être semi-désertique, ses terres sont riches en ressources rares et donc précieuses. Comme le précise la Tribune, le président français, en véritable VRP de l'industrie nucléaire, s'est engagé à faciliter le financement de la transition écologique de la Mongolie avec des coopérations sur les énergies renouvelables et le nucléaire. Cet accord pour l'exploitation du gisement de Zouf-Ovo, signé à l'Elysée quelques mois après, n'est donc pas si surprenant. Mais qu'en est-il réellement de ce gisement annoncé par la Tribune comme l'une des plus importantes mines d'uranium du monde ? Orano est en réalité sur le coup depuis plus de 20 ans. La société, entre guillemets acteur minier responsable, a déployé entre 2021 et 2022 un pilote industriel pour confirmer la faisabilité économique, environnementale et sociétale d'exploitation du site de Zouvrovo.
Il n'est pas facile celui-là.
Ouais, de Zouvrovo. Un projet développé par Badrac Energy, la co-entreprise entre Orano et l'entreprise publique mongole Mondatome. Et grâce à cette activité, la Mongolie deviendrait, je cite, un acteur stratégique et un contributeur important à l'effort climatique mondial. D'après les données officielles de l'industriel franco-mongol, le gisement de Zouvrovo aurait été découvert en 2010. En 2013, ces ressources auraient été estimées à presque 55 000 tonnes, ressources largement revues à la hausse après la mise en service des installations pilotes qui ont eu lieu en 2019 et qui sont désormais chiffrées à un peu plus de 96 000 tonnes d'uranium. Mais si on creuse un peu et que l'on va puiser des sources plus indépendantes, comme d'un réseau d'experts internationaux, les données disent tout autre chose. Wise Uranium chiffre la réserve probable de ce gisement à 34 500 tonnes d'uranium, la ressource présumée étant de 39 000 tonnes, estimation sur la base de preuves géologiques et d'échantillonnage limité, soit moins de la moitié de ce qui est annoncé par l'exploitant minier. Quant à la teneur moyenne en uranium du minerai, sa concentration, elle est de 0,02%, ce qui est faible et même très faible. Tellement faible qu'en France, les gisements présentant cette teneur en uranium étaient appelés stériles et jugés trop peu rentables. La teneur en uranium du site mongol est 8 fois plus faible que le gisement français à l'époque. Ceux du Kazakhstan ont une teneur de 2 à 6 fois plus concentrée. Quant au Niger, la teneur est presque 20 fois plus élevée qu'en Mongolie. Alors non, le site de Zouvrovo ne pourra certainement pas compenser la perte des importations nigériennes, ni pourvoir aux besoins supplémentaires inhérents à une multiplication des centrales nucléaires. Sans compter que cette teneur particulièrement faible impose un procédé d'extraction bien particulier. Il ne s'agit pas là d'une exploitation minière comme on l'entend communément avec des mineurs et des galeries. Non, le procédé dit ISR, In Situ Recovery, ou lixiviation in situ, fonctionne sur la dissolution chimique. Il consiste à creuser un trou jusqu'au minerai, puis à y injecter de l'acide, type acide sulfurique, pour dissoudre l'uranium et tout le reste. Il faut ensuite attendre plusieurs mois, puis récupérer le tout en forant un autre trou, puis traiter chimiquement la solution pompée dans une autre installation. Ces transports impliquent forcément eux aussi leur quota d'émissions polluantes. La méthode, jusque-là utilisée principalement au Kazakhstan et en Ouzbékistan et aux États-Unis, est un procédé extrêmement polluant. Elle libère des quantités considérables de gaz radioactif, du radon, et produit de grandes quantités de boue et d'effluents contaminés lors de la récupération de l'uranium en phase liquide. Par ses infiltrations d'acide dans les sols, cette technique laisse aussi des concentrations élevées de métaux lourds toxiques dans les nappes phréatiques. Si en surface, le paysage est visible et visuellement très peu marqué par un champ de forage, cette technique d'extraction du minerai est irréversible et rend impossible le rétablissement des conditions des eaux souterraines naturelles après l'achèvement des opérations de lixiviation. Et c'est sans compter les impacts environnementaux dus à l'usage de quantités colossales de produits chimiques et d'eau nécessaires à cette technique. Cet aspect n'est évidemment pas mis en avant par Orano, ni par les médias qui ont repris cette annonce commerciale faite avec la complicité du gouvernement français. Ce n'est d'ailleurs certainement pas pour rien que dès 2011, un mouvement de contestation locale a émergé en Mongolie face à l'image d'un acteur minier responsable, entre guillemets, et d'un pays qui devient un contributeur important à l'effort climatique. Cette annonce, avant tout commerciale, semble surtout destinée à rassurer quelques investisseurs et à calmer les esprits qui s'interrogeraient sur le devenir de la filière nucléaire. Le tout avec une forte odeur, évidemment, d'attitude coloniale. J'irai polluer près de chez vous. Voilà ce qu'a annoncé Orano, en gros, le 12 octobre, avec la bénédiction du président français. Au nom d'une indépendance énergétique qui n'existe déjà plus et sous couvert d'une action climatique qui laissera des goûts environnementaux irréversibles. Des dégâts environnementaux irréversibles, jusqu'où ira la filière nucléaire française. Donc voilà pour ce petit point sur la Mongolie qui est un peu un effet d'annonce, la poudre un peu aux yeux, mais qui risque d'avoir des conséquences assez lourdes pour la Mongolie. Donc voilà, et vous pouvez d'ailleurs retrouver, donc ça c'est un article que j'ai pris sur le site du réseau Sortir du Nucléaire, donc vous pouvez retrouver cet article sur leur site, et on vous mettra le lien certainement sur le blog. Voilà. Et du coup, j'enchaîne sur une nouvelle. Donc on reste dans le domaine du nucléaire, mais je vais vous parler de la nouvelle campagne de l'ANDRA. Et oui, parce que l'ANDRA, alors peut-être vous êtes tombé dessus, mais l'ANDRA a lancé une campagne de communication complètement hallucinante qui s'appelle « Lettres aux générations futures ». Donc ils ont créé un site dédié avec des vidéos, il y a plein de visuels, il y a un affichage publicitaire, etc. pour informer les générations futures. Alors, image lisse, environnement où tout a l'air aseptisé, des humains blancs et blonds sur fond d'étals, de fruits et de légumes... Ça fait vraiment, vraiment flipper. On se croirait dans les visuels de pub des années 50. Et donc, ben, hasard, comme par hasard, devinez quelle est la zone de diffusion de cette campagne. C'est le Grand Est, donc région dans laquelle l'État est à pied d'œuvre pour la transformer en poubelle atomique. Dans leur communication, donc il y a des vidéos, enfin il y a une vidéo, et donc cette vidéo est dans la droite lignée des campagnes de propagande chères à la filière nucléaire. Donc usage unique de mots nobles et rassurants, engagement scientifique de maîtrise et de sécurité, confiance pour l'avenir, avec voilà une exclusion de toute notion de danger. Donc évidemment pas un mot sur les difficultés insurmontables que pose la gestion de ces déchets atomiques. Les impacts sanitaires connus ou imprévisibles à court terme et à long terme, contamination irréversible, mémoire des sites définitivement impossibles à transmettre, risque majeur d'explosion et d'incendie, coûts pharaoniques, etc., etc. Bref, on est loin du roman à l'eau de rose matraqué par l'ANDRA dans sa campagne. Il est à souligner aussi que le projet CIGEO ne prévoit pas de budget pour assurer la récupérabilité des colis de déchets. Donc à l'heure actuelle, une telle décision resterait sur la responsabilité et le financement de la génération qui la prendrait. Ajoutez aussi à ça, donc dans le cas de cette campagne, elle intervient aussi dans une situation où en fait, il y a eu le vendredi 27 octobre 2023, cette même année. Donc c'était ce vendredi-là, le vendredi 27 octobre, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par les associations et habitants-habitantes opposés au projet d'enfouissement pour déterminer si le projet CIGEO respectait la Constitution concernant les droits des générations futures. Et donc l'ANDRA, pour sa défense, s'est vu contrainte de dire l'inverse de ce qu'elle prétend aujourd'hui dans sa fameuse lettre aux générations futures. Je cite, donc ça c'est l'avocat de l'ANDRA qui disait ça. Certes, c'est une idée altruiste, une idée généreuse, donc les générations futures. C'est une idée altruiste, une idée généreuse, une idée humaine même, mais cela reste une idée qui n'est pas juridiquement opérante, car les générations futures, peut-être, certes, seront, mais à l'heure actuelle, elles n'existent pas. Donc voilà, c'est dit. En fait, l'ANDRA se fout bien votre gueule, parce qu'ils considèrent que les générations futures n'existent pas. Donc leur lettre aux générations futures, ben, c'est une lettre qui va à la poubelle. Et puis, ajouté à ça, l'ANDRA, pareil, n'y va pas de main morte en affirmant quand même que la France, comme d'autres pays à l'international, a fait le choix du stockage en couches géologiques profondes, alors que l'autorisation de création est encore en instruction. Pour eux, c'est tout est gagné. Cette campagne, elle est absolument... Je vous encourage à aller voir les visuels. Vous allez voir, c'est assez...
déprimant.
Assez gerbose, quoi. Ouais, c'est vraiment gerbose, quoi.
Ah, je croyais que ça faisait rêver.
Ouais, bah, ça dépend qui, quoi. Voilà, voilà.
Et ben on enchaîne avec la suite finalement.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Jeudi 16 novembre, donc hier, la Commission européenne a annoncé sa décision d'autoriser le glyphosate, le pesticide le plus vendu au monde, pour 10 ans de plus. Pour l'interdire, il aurait fallu une majorité d'au moins 15 États représentant 65% de la population européenne. La France s'est abstenue, comme l'Allemagne, l'Italie et 4 autres pays. En tout cas, en l'absence de majorité qualifiée, l'exécutif européen a repris la main et s'est prononcé en faveur de la réhomologation du produit herbicide. Malgré le rapport du coup rendu par l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui estime que l'herbicide le plus vendu au monde ne pose pas de risque majeur pour la santé humaine, on peut se demander la véracité de ces études, en tout cas parce que l'ensemble des études sur le glyphosate, en tout cas porté par des chercheurs indépendants et des scientifiques, explique que le glyphosate, de manière avérée quand même, alors attendez, je retrouve les trucs, oui, il est de toute façon de manière totalement véritable, nocif pour la santé. Tout un tas de pathologies peuvent lui être attribuées. En tout cas, pour les professionnels de la terre, les agriculteurs et agricultrices, il augmente les risques de développer les lymphomes. Il y a d'autres études qui expliquent qu'il atteint aussi le développement cellulaire quand il est des individus qui grandissent auprès de ça. Il est aussi pour peut-être 40% responsable du développement de lymphome non hodgkinien. Il y a d'autres études qui expliquent aussi l'impact sur les agriculteurs et agricultrices au niveau du coup d'un risque cancérogène magistral. Mais c'est pas le seul truc hein, quand même, le glyphosate qui est du coup dans les catégories des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, c'est-à-dire que c'est un perturbateur endocrinien magistral qui du coup a des effets sur la fertilité et la formation du fœtus. C'est un produit neurotoxique qui endommage donc le système nerveux. C'est une substance néfaste pour le microbiote. Donc l'herbicide est un antibiotique qui attaque du coup les bactéries intestinales. Donc ça crée des déséquilibres au niveau de l'organisme. Le glyphosate aussi est néfaste pour les écosystèmes. Il appauvrit les sols, il pollue l'eau. Il entraîne une toxicité chez les poissons, il pollue l'air. Il pollue du coup pour les abeilles. En tout cas, on a de cesse quand même d'avoir prouvé la nocivité de ce glyphosate. Et encore, le glyphosate, certes, mais alors le Roundup, plus du coup les ajouts de substances additives dans la création du Roundup, là en fait ça potentialise la nocivité du glyphosate. Alors du coup on se demande un petit peu comment cette décision de l'EFSA de rendre un avis que c'était pas si grave que ça finalement l'impact de cet herbicide. Tout un tas de chercheurs du coup se explique en fait que c'est une manipulation comme ce qui s'est passé pour le tabac, comme ce qui s'est passé pour le pétrole aussi, manipulation d'études scientifiques par rapport au cadre de là où ils observent quoi. La question c'était quand même de par la France qui avait Emmanuel Macron, on s'en rappelle en 2017, qui s'était engagé à sortir du glyphosate en 3 ans. Ils avaient voté contre en première intention. Là, à nouveau re-questionnés, ils s'abstiennent. Il est fortement probable alors sans preuve tangible pour l'instant, mais en tout cas de se dire que ils se sont mis, les élections européennes sont dans pas si longtemps que ça, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas, eux, du coup, se sont abstenus aussi, en portant des politiques dans leur pays aussi d'arrêt du glyphosate, mais en tout cas, au niveau européen, ils se sont juste abstenus. Et donc la France ne voulait pas froisser les Allemands, ni l'Italie, et l'histoire est peut-être aussi de se demander sur des injonctions sous table politiques ou financières, d'un certain nombre de lobbies aussi de l'agriculture, et des gros exploitants agricoles européens. En tout cas, ce qu'on peut entendre, c'est pour ça que c'est toujours compliqué d'arriver après à croire nos politiques. Christophe Béchu, qui est le ministre de la Transition écologique, lui a dit que c'était complètement une dinguerie de laisser ce glyphosate. Dinguerie, c'est... mensonge, encore une fois, éhonté. En tout cas, on va suivre, mais on n'a pas fini de polluer nos sols.
Vers revoir un rouminet.
Oui, et dans la rubrique animaux, on va parler de sabotage. Ni plus ni moins par des gastéropodes, ou autrement appelés colimaçons, ou autrement appelés escargots, qui ont pourri du courrier, voilà. Du courrier chez des gens, parce que ces petits animaux, ils arrivent à se faufiler dans les boîtes aux lettres, ainsi que les souris. Donc, associés aux brebis, on peut imaginer des choses...
Des actions formidables.
Des actions formidables pour la lutte. Voilà.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, pour l'agenda, on va partir du tapis.
Et voilà, on m'entendait pas.
On
va partir du principe pour l'agenda que vous avez Internet et Rébellion, et on va vous dire juste le principal. Il y a un rassemblement ce soir 20h30 pour les Gilets jaunes, c'est les 5 ans, ça devait être demain, vous renseignerez. En tout cas, c'est ce soir 20h30 à Terreau, si je dis pas une connerie. Il y a un rassemblement demain contre les violences faites aux enfants et aux ados, ça c'est à 14h place des Terreaux, et une heure après, et vous aurez juste le temps de vous déplacer, c'est à Bellecour et c'est l'intersyndicale qui appelle un rassemblement pour le cessez-le-feu, donc CGT, FO, Solidaire, FSU, UNSA, CGT. Il y a plein de projections, de débats sur des bouquins. Vous aurez le temps de les voir. Parce que le temps tourne, n'est-ce pas ? On va quand même mentionner l'appel à soutien pour un cabaret queer qui a été menacé par les FAF. Donc ça, c'est dimanche, c'est à 16h, c'est au Rock'n'Hit. Et du coup, comme ils sont très très actifs en ce moment, les fachos, et ça leur fait plaisir de défoncer des gens, plus on sera nombreuses, et peut-être, comme ils sont pas très courageux non plus, ça leur donnera peut-être envie de pas venir. Voilà, une soirée de soutien organisée par Lyon Info Migration, ça c'est mardi à l'Amicale. Et après, comme d'habitude, tout un tas de petits événements, enfin de grands événements que vous pourrez retrouver assez facilement sur Rébellion.
Canyon Info du vendredi.
Je m'appelle Margot, j'ai 3 ans et je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire ACAB.
Radio Canu, la radio la plus brillante.
Il y a eu plein d'appels évidemment, comme tous les jours. Pas comme tous les jours, comme tous les vendredis. Du coup, ça veut dire plein de choses, j'ai l'impression, à ACAB ce soir. En tout cas, ça veut dire au moins Andra et Sigeo au bio.
Ça veut aussi dire allons caresser en Auvergne des brebis, l'Andra creuse, l'avenir brûle.
Et voilà, et il est 20h02, bientôt 20h03,
oui, oui, oui.
On a fait 3 minutes de rap musette parler, et du coup, on va laisser la place à une émission, je crois, qui s'appelle Pollution Bruit, ou un truc comme ça, mais je parle pas très bien anglais. Voilà, à bientôt,
ciao.
Salut. Ciao, salut. Ciao.